France Culture.
Et le journal est présenté ce soir par Nicolas Balu. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir, bonsoir à tous. Les scientifiques affichent leur solidarité avec leurs homologues américains face aux coupes budgétaires drastiques et l'offensive de Donald Trump contre certains programmes scientifiques. Ils manifestaient aujourd'hui aux États-Unis, mais aussi dans plusieurs villes de France. Donald Trump menace la Russie de droits de douane, une arme pour obtenir le cessez-le-feu en Ukraine, selon lui. Explication de Sébastien Paour. François Bayrou, lui, lance l'idée d'un grand emprunt national pour financer les dépenses militaires. Juste une idée, assure le Premier ministre, mais elle est maintenant dans le débat. Retour sur les grands emprunts et leur utilité sous la Ve République dans ce journal. Rachida Dati, la ministre de la Culture, annonce un nouveau plan pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma, la musique ou encore le spectacle vivant. Les détails avec Louis-Valentin Lopez. Une bombe de la Deuxième Guerre mondiale retrouvée en pleine voie, gare du Nord. Le déminage vient de prendre fin. Pourquoi, 80 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, retrouve-t-on autant de bombes de cette époque ? Réponse dans ce journal. Enfin, nous nous intéresserons aux investissements d'un grand champion français, Tony Parker. Investissement, oui, mais pas toujours heureux. C'est l'enquête de la cellule d'investigation de Radio France. C'est une mobilisation à laquelle on ne s'attendait peut-être pas, peut-être parce qu'elle est moins l'œuvre des politiques. C'est celle de la communauté scientifique et académique qui se dresse face à Donald Trump. En quelques semaines, le président américain a opéré des coupes budgétaires drastiques dans les projets de recherche. À vrai dire, la liste des griefs est longue, licenciements massifs, coupes budgétaires donc, programmes gelés, interdiction de communiquer avec des journalistes ou bien de se déplacer dans des congrès scientifiques, de publier des travaux sur les minorités ou le changement climatique. Manifestation donc aujourd'hui dans 32 villes américaines, mais aussi en France. Un collectif de chercheurs français appelait citoyens et scientifiques à manifester aujourd'hui dans le cadre donc de ce mouvement baptisé Stand Up for Science. Reportage par exemple à Tours, Julien Raymond.
Fraîchement nommé président de l'université de Tours il y a 3 mois, Philippe Roingeard vit avec inquiétude son début de mandat.
Qui aurait prédit ça aux États-Unis il y a encore 10 ans? Personne.
Chercheur à Harvard par le passé, mais aussi 34 ans de carrière universitaire à Tours, il en est convaincu, la science est un bien commun précieux.
C'est la science qui fait progresser le savoir, progresser les connaissances. C'est avec la science maintenant qu'on protège du développement de maladies, mais c'est aussi avec la science qu'on va lutter contre le réchauffement climatique.
Tous sont choqués de voir des programmes et des postes de chercheurs supprimés par l'administration Trump. Nous devons mener la fronde, affirme Christophe Vendier, professeur en physiologie. Il faut
que les chercheurs, la recherche soient vraiment mis en avant, plus de vulgarisation, qu'on soit plus proche de la société avec des conférences grand public, ce qu'on essaie de faire de plus en plus.
Les universitaires craignent aussi de nouvelles coupes budgétaires. Emmanuel Macron a annoncé vouloir renforcer le budget de la défense. Jérémy Villatte, professeur de philosophie, tient une pancarte. De l'argent pour la recherche, pas pour la guerre.
On manque énormément de moyens, on ne peut pas réaliser la plupart des études qui nous intéressent. Ça se ressent aussi quand il s'agit de l'enseignement, avec une quantité d'heures de cours qui est insuffisante pour former correctement nos étudiants.
Même si la recherche n'a jamais été autant menacée aux États-Unis, elle n'est pas en bon état en France non plus, conclut Jérémy Villatte.
Voilà, reportage Julien Raymond d'ici Touraine. Depuis qu'il a été élu, le monde assiste stupéfait à la rapidité de la mise en place de la politique du président américain, mais aussi à ses déclarations tempétueuses et des changements de cap, alors qu'il s'aligne sur les positions russes concernant la guerre ou la paix en Ukraine. Voilà que le président américain menace aujourd'hui la Russie de nouvelles sanctions bancaires et de droits de douane, comme pour le Canada ou le Mexique ou l'Europe, par exemple. Pourquoi ? Parce que les Russes pilonnent les Ukrainiens, dit-il. Voilà qui nécessite quelques explications. Sébastien Paour.
C'est l'attaque massive des Russes ces dernières heures en Ukraine qui l'a fait prendre son téléphone au réveil ici sur la côte Est. Un bombardement avec 67 missiles et 194 drones d'après l'armée de l'air ukrainienne, la plupart interceptés, mais des dégâts sur des installations électriques et gazières. Trump va donc sur son réseau social Truth et il écrit ceci. Compte tenu du fait que la Russie est en train de pilonner l'Ukraine, j'envisage fortement d'imposer des sanctions bancaires et des droits de douane à grande échelle à la Russie, jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu et un accord de règlement définitif sur la paix soient conclus. Fin du message, qui intervient après le clash avec Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale, puis la pause dans l'envoi d'aide militaire et l'échange de renseignements américains à Kiev, et alors qu'il répète depuis des jours qu'il est convaincu que Poutine veut la paix. Trump avait déjà menacé la Russie de sanctions et de droits de douane en janvier, mais il n'avait pas donné suite en expliquant qu'il aimait le peuple russe et qu'il avait de très bonnes relations avec le chef du Kremlin.
Sébastien Paour à Washington. L'Ukraine a été visée la nuit dernière par une soixantaine de missiles et 194 drones russes. Kiev a également indiqué que l'armée avait utilisé pour la première fois des chasseurs français Mirage 2000. Bonsoir Éric Bigala.
Bonsoir Nicolas.
Il s'agissait de repousser une vague de bombardements qui a visé les infrastructures énergétiques du pays.
Oui, cette nuit, les radars ukrainiens ont repéré le lancement par les Russes de quelques 60 missiles de croisière ou missiles balistiques et autour de 200 drones d'attaque. Pour les intercepter, l'armée ukrainienne a mis en batterie ses défenses solaires, batteries anti-aériennes, mais aussi engins de guerre électronique et de brouillage, assez efficaces d'ailleurs contre les drones. L'armée de l'air ukrainienne a également fait décoller ses chasseurs F-16 et pour la première fois, les Mirage 2000-5 livrés par la France. Les trois premiers appareils sont en effet à pied d'œuvre en Ukraine depuis le début février. Dans un message sur X Twitter, le président Zelensky indique cet après-midi que, je le cite, « Les Mirage ont intercepté avec succès des missiles de croisière russes. Merci !» ajoute-t-il dans son poste. Sur la vague des 260 missiles et drones lancés par les Russes, 88% ont ainsi été interceptés ou brouillés par les défenses ukrainiennes, mais 31 de ces vecteurs sont tout de même passés au travers des mailles du filet, touchant quelques centrales électriques ou bâtiments d'habitation dans l'est et l'ouest du pays, ainsi qu'autour d'Odessa dans le sud, occasionnant en tout une trentaine de blessés. Les Mirage 2000 livrés à l'Ukraine sont des appareils taillés pour l'interception, ils sont donc parfaitement adaptés pour ce faire, mais ils ont également été modifiés pour pouvoir porter des charges d'attaque, air-sol, missiles de croisière ou bombes guidées. On ne les a pas encore vus dans de telles missions offensives.
Merci Éric Bigala. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a salué cet après-midi l'accord trouvé hier sur les dépenses militaires de l'Union européenne. C'est un pas en avant historique, dit-il. Je vous rappelle que les dirigeants des 27 ont donné leur feu vert au plan de la Commission européenne qui propose de mobiliser 800 milliards d'euros pour la défense. Plus globalement, aujourd'hui, les États vont être confrontés au financement du réarmement. Ce matin, le Premier ministre François Bayrou a émis l'idée de solliciter les Français par un grand emprunt national. Ça n'est pas du tout décidé, assure-t-il. Il a évoqué cette piste comme une possibilité. Ce qui serait tout de même une première depuis 32 ans, le dernier grand emprunt national ayant été lancé par Édouard Balladur en 1993, qui voulait à l'époque financer l'accès au travail des jeunes et relancer les travaux publics. Mais en général, l'État recourt à ce type de financement quand il a du mal à trouver d'autres sources de financement. C'est ce que nous explique l'économiste David Lebris. Il est enseignant-chercheur à la Toulouse Business School et spécialiste d'histoire financière.
La grande différence avec l'emprunt au quotidien que peut faire l'État, c'est qu'il va s'adresser directement aux épargnants. Et un des éléments qu'on retrouve souvent, c'est une certaine ferveur patriotique. Donc ça, c'est typique évidemment des guerres, des périodes de guerre ou de libération. Ça peut être la libération du territoire en 1871, ça peut être évidemment les deux guerres mondiales ou les périodes juste après pour reconstruire. Et donc là, c'est évidemment intéressant pour l'État parce que il peut ne pas avoir à offrir une rentabilité attendue très élevée et jouer plutôt sur le fait que les Français ont envie de souscrire parce que ils sont convaincus de la nécessité pour le pays. Il y a d'autres grands emprunts, une autre catégorie, c'est quand l'État va offrir une garantie particulière. Parce que la situation économique, et donc là, ça découle souvent des guerres, mais c'est pour sortir de problèmes financiers. Ça va être par exemple l'emprunt Pinet en 1952, pour que l'État puisse à nouveau attirer les investisseurs qui ont été ruinés par l'hyperinflation. Eh bien, il va garantir cet emprunt sur l'or, sur le cours de l'or. Les Français voulaient plus acheter aucun titre parce qu'ils avaient été ruinés. Et donc Pinet va réussir à attirer l'épargne des Français avec ce slogan merveilleux « de l'or qui rapporte ». Et c'est resté dans l'histoire comme un grand emprunt. Mais ça a coûté très cher.
Quel est l'intérêt de solliciter la population par rapport au marché financier ?
Il y en a pas. Il y en a pas, sauf quand les marchés sont plus là. Mais tant que les marchés sont là, c'est en général plus coûteux.
Voilà, c'est dit. L'économiste spécialiste d'histoire financière, David Lebris, était au téléphone avec Stéphane Robert. En Syrie, les forces de sécurité menées par les islamistes d'HTS mènent des combats dans les régions de Latakié, Tartous et Homs, des bastions de la communauté alaouite à laquelle appartient le président déchu, Bachar al-Assad. Les affrontements ont fait au moins 124 morts, selon l'observatoire l'Observatoire syrien des droits de l'homme et un couvre-feu a été instauré. Une opération de sécurité vient d'être lancée, annonce ce soir Damas. Que cherche le nouveau pouvoir ? Pas seulement à pacifier la région, selon Fabrice Balanche, maître de conférence à l'Université Lyon 2.
Depuis quelques jours, les forces de Hayat al-Sham ont attaqué les quartiers et les villages alaouites de la région côtière syrienne. On peut penser que c'est pour arrêter des anciens officiers de l'armée de Bachar el-Assad, mais ça va beaucoup plus loin. L'objectif est d'avoir un contrôle total de la région alaouite. Et puis, d'une manière générale, c'est aussi pour Hayat al-Sham un moyen d'unifier les différentes factions islamistes derrière un objet commun, qui est la guerre contre les hérétiques d'alaouites. Ils pénètrent dans ces quartiers, ils les traitent de porcs. Ça dépasse donc la simple arrestation politique, mais c'est une guerre contre les chiites, en fait, de la part de ces factions sunnites. Soit à ce moment-là, les alaouites sortent du bois, prennent les armes, et c'est la guerre civile dans la région côtière. Ou alors, ils se soumettent, mais ça peut provoquer évidemment un immense exode de cette population vers le Liban, à moins que la Turquie envoie des troupes pour stabiliser la situation, elle qui rêve d'étendre sa frontière un peu plus vers le sud.
Fabrice Balanche, maître de conférence à l'université Lyon 2, interrogé par Omar Waman. L'ONU se dit ce soir profondément alarmée par les affrontements meurtriers en Syrie. Un nouveau plan pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma, la musique ou encore le spectacle vivant. Il émane du ministère de la Culture. Rachida Dati l'a détaillé en début d'après-midi lors d'une conférence de presse. Un plan biennal qui sera mis en application entre 2025 et 2027 et qui vise notamment à renforcer des mesures déjà en place. Les détails avec Louis-Valentin Lopez.
Mettre fin à la loi du silence, c'est l'objectif affiché de ce nouveau plan. Irène Basilis est haute fonctionnaire à l'égalité, à la diversité et à la prévention des discriminations au ministère de la Culture.
On voit qu'il faut aller plus loin et qu'il y a encore beaucoup de victimes qui n'osent pas se signaler, beaucoup de témoins qui n'osent pas parler.
Le plan est construit autour de quatre axes, la signalisation, l'action, l'accompagnement des victimes, la prévention aussi qui passe par la formation.
L'idée c'est de former beaucoup plus largement les personnes qui sont en responsabilité, pas seulement les directeurs ou directrices de structures, compagnies ou lieux, ou des producteurs de films, mais aussi les personnes qui travaillent en tournée, les personnes qui sont en responsabilité d'équipe, quel que soit le contexte.
Parmi les mesures concrètes, élargir la conditionnalité des aides culturelles, la cellule d'écoute dédiée sera aussi renforcée avec des horaires d'ouverture étendus. Frédéric Oliven dirige le groupe Audience qui chapeaute cette cellule mise en place en 2020.
On a doublé chaque année le nombre d'appels à la cellule pour être aujourd'hui sur à peu près 1 000 par an. Derrière, on va avoir une meilleure connaissance, maintenant aujourd'hui une meilleure expérience de la façon dont on peut opérer ces accompagnements. Aussi de sélectionner les bons partenaires, les bons psys, les bons avocats, les bons juristes, les bons cabinets, les bonnes structures.
Le plan consacre enfin un volet aux mineurs avec l'instauration d'un responsable enfant dans le spectacle vivant au même titre que ce qui existe dans le cinéma ou encore la consultation du FIJES, le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes lors du recrutement de personnel en contact avec les mineurs.
Louis-Valentin Lopez, Bernard Scarsini, condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, l'ex-patron du renseignement intérieur, a été jugé coupable d'avoir profité de ses réseaux pour obtenir des informations confidentielles et privilégiées au bénéfice notamment du PDG du LVMH, Bernard Arnault. C'est un déminage un peu particulier qui vient de se terminer, Gare du Nord, celui d'une bombe de 500 kilos de la Seconde Guerre mondiale. Elle avait été trouvée au milieu des voies. Ce n'est pas la première fois que la découverte d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale vient paralyser le réseau ferroviaire à Paris. Des bombes de ce type sont également régulièrement retrouvées en France. Comment, en 2025, de telles découvertes peuvent-elles encore se produire? Les deux guerres mondiales ont été les premiers conflits, industrialisés, des conflits qui ont laissé de nombreuses munitions enfouies dans la nature. Les explications d'Olivier Saint-Hilaire, docteur en histoire et spécialiste des déchets de guerre.
Là, ça a atteint des dimensions industrielles inédites. C'est-à-dire que on a vraiment une production en masse. Et puis, on a des nouveaux explosifs qui arrivent aussi avant 1914 sur le marché de la guerre, qui font que les capacités de destruction des munitions atteignent un niveau qui avait jamais été atteint jusque-là. On estime que sur le milliard d'obus tirés entre 1914 et 1918, donc on parle que des obus tirés par l'artillerie, 25 à 30% de ces obus n'auraient pas explosé. Et en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, c'est 10% des munitions qui n'auraient pas explosé. Sachant que chaque année, on retrouve, en tout cas le service du déminage collecte 500 tonnes de munitions des deux conflits mondiaux en moyenne, dont 10% de munitions chimiques, on voit bien que le problème reste entier, c'est-à-dire que le nettoyage est largement inachevé. Là, en ce qui concerne, par exemple, cette munition de ce matin, on peut présumer que la bombe est restée enfouie assez profondément pour que personne ne l'ait vue au moment où les voies ont été reconstruites. C'est-à-dire qu'en 1944, quand il y a eu ces bombardements sur les voies ferrées autour de Paris, il est probable que la nécessité obligeait les cheminots à remettre en état le réseau au plus vite, sans forcément se soucier de savoir s'il restait encore des munitions enfouies.
Olivier Saint-Hilaire, docteur en histoire et spécialiste des déchets de guerre avec Mircea Nezici. À noter que le trafic Gare du Nord reprend progressivement. Les grands champions ne font pas toujours des hommes d'affaires avisés. Exemple, Tony Parker, c'est le joueur de basket français dont le palmarès est le plus impressionnant. L'ancien meneur de jeu des Bleus, ex-star de la NBA dans le club des Spurs de San Antonio, s'est reconverti dans le monde des affaires depuis sa retraite sportive en 2019. Bonsoir Marion Botorel.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à la cellule Investigation de Radio France. Comme homme d'affaires, Tony Parker met en avant son image de vainqueur, mais il semble avoir moins de succès que sur les parquets.
Oui, et premier exemple dans l'univers que Tony Parker connaît le mieux, le basket. Depuis 2014, il est président du club de Lyon-Villeurbanne, l'ASVEL. Alors sportivement, c'est un succès. Le club renoue avec les victoires, accède à la Ligue européenne. Mais financièrement, ce n'est pas la même histoire. Le budget de l'ASVEL a été réduit drastiquement par la Ligue nationale de basket. Une décision prise par le président de la Direction nationale du contrôle de gestion des clubs, Patrick Yanasi.
Pourquoi on est arrivé là? C'est parce que la situation financière du club s'est énormément dégradée, malgré le soutien de Tony Parker. Il a donc fallu que M. Tony Parker, en fait, prenne l'engagement de soutenir le club. Et c'est lui, pour le dire de manière très prosaïque, c'est lui qui fait les fins de mois. Et régulièrement, on prend des nouvelles pour voir s'il respecte ses engagements.
La faute à deux sponsors choisis par Tony Parker et qui n'ont finalement pas payé les montants pour lesquels il s'était engagé. L'ancien basketteur pense avoir trouvé la solution avec d'éventuels nouveaux partenaires en République démocratique du Congo, pays dont il a été nommé ambassadeur en septembre 2024, un mandat qui fait de lui une sorte de VRP de la RDC. Écoutez Tony Parker lors d'une conférence de presse le 3 décembre dernier.
Aujourd'hui, on a un mandat exclusif du président. Il a envie de nous accompagner dans le développement du pays, dans le développement de la jeunesse congolaise. Il y a plus de 100 millions d'habitants, donc il y a un potentiel incroyable. Et par rapport à toutes les réunions que j'ai eues en septembre avec les différents ministres et le président, moi j'ai 100% confiance en eux pour qu'on collabore ensemble. Et moi, je ne suis pas dans la politique et je ne serai jamais dans la politique.
Alors, pas de politique, Marion, mais la RDC est quand même un pays en guerre avec son voisin, le Rwanda.
Oui, et en se rapprochant de Tony Parker, la RDC tente d'ailleurs d'imiter la stratégie du Rwanda avec son slogan « Visite Rwanda » qu'on peut voir par exemple s'afficher sur le maillot du Paris Saint-Germain, le club de foot. Il s'agit là d'une forme de soft power, selon le journaliste de Jeune Afrique, Romain Chanson.
La RDC considère que le Rwanda a une très bonne image à l'international. C'est un pays en effet qui accueille des événements internationaux, le basket, qui va accueillir les championnats du monde de cyclisme, qui veut accueillir un Grand Prix de Formule 1. Donc on est dans une guerre médiatique et diplomatique, et c'est la diplomatie du sport. La RDC a besoin de gens comme Tony Parker pour parler positivement du pays.
Et à Kinshasa, l'ancien basketteur envisage également d'ouvrir l'une de ses écoles baptisée Tony Parker Academy, des écoles dont le modèle économique n'est en fait toujours pas consolidé 5 ans après leur création. Nous avons aussi découvert que les promesses de Tony Parker faites lorsqu'il était juré de l'émission « Qui veut être mon associé » sur M6 ne se sont pas forcément concrétisées, comme me l'a raconté Camille, une candidate qui n'a jamais perçu les 200 000 euros promis par Tony Parker.
J'ai voulu en parler aux autres startups qui avaient fait la saison avec nous. Plusieurs startups, en fait, a commencé à témoigner sur le fait que, bah, eux, ça s'est très mal passé, ou alors il n'y a pas eu d'investissement promis, qu'il y a eu une attente très longue et toujours rien. Il y a vraiment eu un gros problème de gestion, en fait, des investissements de la part de l'équipe de Tony Parker.
Alors, nous avons contacté l'ex-basketteur. Tony Parker n'a pas pu nous préciser le montant de ses investissements, ni ceux qui se sont effectivement concrétisés une fois les caméras éteintes.
Merci Marion Botorel. Votre enquête complète est à retrouver sur le site radiofrance.fr. Un mot du temps de demain. Les nuages présents sur la pointe de Bretagne gagneront la façade atlantique l'après-midi. Sur le reste du pays, eh bien, le soleil va dominer le plus souvent, légèrement voilé par moments par de nuages élevés. Les températures maximales, eh bien, elles vont s'échelonner de 15 à 19 degrés jusqu'à 20-22 degrés sur l'Aquitaine. C'est la fin de ce journal. À la technique d'Aliya.